Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel. La radio. La radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à cette émission Cinérama du mercredi 18 mai. Alors que Cannes bat son plein, nous sommes encore dans le studio. Bonjour Martin, bonjour Marine.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Et nous avons un sommaire copieux, on peut le dire, on le répète chaque semaine. De quoi on va parler aujourd'hui ?
Alors pour ma part, moi la semaine dernière j'ai réalisé un vieux rêve, un fantasme de tout bédéphile qui se respecte. Je suis allé interviewer Enki Bilal, rien de moins qu'un monstre sacré de la bande dessinée et aussi cinéaste, metteur en scène de théâtre, etc. Donc voilà, en milieu d'émission je partagerai avec vous cette rencontre dans une interview de 20 minutes à peu près.
Avec une version courte effectivement,
voilà.
Et tu proposeras une version longue.
Tout à fait, donc vous pourrez, là j'ai monté un peu pour recentrer sur le cinéma, son rapport au cinéma, et je vous proposerai donc une version longue un peu plus tard dans la semaine, vendredi à 15h et samedi à 10h, je vous redirai tout ça un peu plus tard.
Car Cinérama n'est pas une émission de BD, d'actualité de BD, mais bien cinéma, et tu le prouves Marine avec... deux films que tu vas nous présenter. Hein.
Oui, moi cette semaine j'ai arrêté les bouses américaines et j'ai été voir un film italien, La solitude des nombres premiers, et un film vietnamien-japonais, La balade de l'impossible de Tran Anh Hung, dont je vous parlerai également.
Et puis moi, eh bien, je parlerai de Une folle envie, dernière comédie de Bernard Jean-Jean avec Clovis Cornillac et Olivia Bonamy. Et il se trouve qu'ils étaient présents il y a 15 jours à Montpellier, donc il y aura 5 minutes d'interview sur les 50 minutes qu'ont duré la conférence de presse. C'est tout ce que je pouvais faire. Et je vous parlerai aussi de Into Eternity de Michael Madsen, qui était passé sur Arte en janvier, mais qui sort en salle, sans doute eh bien, l'occasion malheureuse de Fukushima. Je pense que voilà, c'est ce qui les a décidés à sortir ce documentaire fort intéressant qui eh bien, sera projeté au Royal. Mais je vais commencer avec L'œil invisible, réalisé par Diego Lerman, film argentin. Alors, c'est un film qui était présent à la quinzaine des réalisateurs de Cannes 2010 et aucun jury ne lui a remis de prix. L'œil invisible n'est pas du tout un mauvais film, il est même plutôt réussi, mais il appartient à ces films qui ont plus de saveur quand on en cause que lorsqu'on les voit. Parce que le voir nous met à l'épreuve de la durée, du temps qui passe, c'est souvent le même, la répétition. Alors, nul beau paysage ici, pas de Patagonie battue par le vent, mais un lycée de Buenos Aires en 1982, au moment où la dictature argentine s'essouffle. Un lycée où l'on se tient à carreaux, pas une chaussette ne doit être baissée, une cravate dénouée, pas plus qu'une mèche de cheveux ne peut être rebelle. Ils ont quand même de la chance, les élèves, parce que ce lycée, eh bien, il est mixte, mais ils ne peuvent rien consommer. On trace une ligne dans la classe, les hommes à gauche et les filles à droite. Et puis tout le monde file droit. Alors dans ce lycée tenu à la baguette, il y a la jeune Teresa, le chignon bien en place, qui fait un travail méthodique et bien ennuyeux de surveillante. Teresa est notre seule chance de quitter l'espace étriqué du lycée, mais manque de peau, quand Teresa quitte son boulot, elle rentre directement chez elle aux côtés de sa mère et de sa grand-mère. À part quelques fous rires autour d'un robinet qui fuit, c'est pas la joie, et on ne sait finalement rien du contexte politique de Buenos Aires. Tout ce qu'on saura sera connu par l'entremise du lycée qui est une sorte de hors-champ. Alors une bonne partie du film, eh bien, on s'applique en tant que spectateur à rentrer dans la discipline grâce au travail de Teresa, mais aussi du surveillant-chef qui ne cache pas qu'il a dû mater à plusieurs occasions aux côtés des fascistes la subversion. Rien n'est pire que la subversion. Pourtant, un élément hautement subversif va venir perturber cette mécanique du droit chemin chez Teresa. Un parfum, la nuque, le visage d'un garçon à peine plus jeune qu'elle. Du coup, notre Teresa, sans amis, sans rencontre et vierge, va tenter d'approcher le désir, quelque chose de chaud et d'exaltant, dans la froideur de ce lycée aux allures militaires. Alors elle va user de moyens détournés assez sordides qui la mettent en danger, elle, la surveillante zélée, sans reproche, qui est censée être l'œil du surveillant chef dans les toilettes où les jeunes garçons sont censés fumer. Alors quand on nous annonce qu'il s'agit d'un film sur la dictature argentine, on se dit peut-être qu'on va suivre une petite leçon d'histoire, mais non, ça n'en prend pas le chemin. Pourtant, on mesure au travers de la vie de ce lycée, du parcours de Teresa, comment cette société était liberticide et peu émancipatrice. La scène finale qui suit le hors-champ sonore de la rue qui gronde derrière les murs nous annonce que c'est bientôt fini, que les militaires et leurs mœurs imposées vont être renversées. Teresa ou une autre n'aura plus à se cacher. Alors la mise en scène est exemplaire, les attitudes répétitives replacent les personnages dans le contexte du lycée, avec une architecture marquée, des colonnes, une chapelle où l'on chante des chants patriotiques, une immense cour faite de damiers. Le dispositif n'est pas sans rappeler le fameux panoptique, dispositif qui permettait à un individu placé dans une tour de voir tout ce que faisaient les prisonniers sans que ceux-ci ne sachent s'ils étaient vus ou non. Et pour, c'est Foucault qui s'en est inspiré dans « Surveiller et punir » pour écrire sur la société disciplinaire qui serait la nôtre. Et l'idée forte du film est de nous placer en tant que spectateur chef du panoptique à regarder les épiés, celle qui épie et qui est aussi épiée. Une place de choix donc pour un spectateur. L'actrice qui interprète Teresa est convaincante, son chef tout autant. Le détour dans l'histoire de son pays du réalisateur Diego Lerman s'inscrit donc, comme je l'ai dit, dans la durée. C'est là la difficulté, confrontant ce qu'il y a de plus intime, de plus incontrôlable à la droiture d'un État, certes déclinant, puisque la guerre des Malouines va éclater et précipiter la chute du régime, mais un État toujours oppresseur. L'œil invisible pourrait décontenancer ceux qui s'attendaient à voir autre chose de l'Argentine fasciste que la vision étriquée d'un lycée d'élite, mais la vie, comme les émotions de Teresa, ne peuvent laisser insensible, et pour les chiffres, les atrocités, il y a les bouquins d'histoire. L'œil invisible est projeté au cinéma Diagonal. Voilà, c'est un film qui se vit. Voilà, qui se vit dans la durée. Il y a un couple qui a pas supporté cette durée, hein, enfin, qui est parti au bout de 20 minutes. Et puis les autres, enfin, certains spectateurs, j'écoutais les commentaires, sont restés soit polis, soit ont trouvé effectivement qu'il y avait là un bon film, un bon sujet, et traité d'une manière assez originale, parce que quand il s'agit de traiter des états totalitaires, en fait, il y a les grands exemples comme La vie des autres, enfin, qui avait fort bien fonctionné, qui était exemplaire, et là aussi c'était quelqu'un qui épiait, un couple d'intellectuels. Et puis il y a aussi eu Le perroquet rouge, réalisé par Dominique Graff, c'était en 2008, où là on voyait que finalement sous un dehors de totalitarisme, il y avait quand même la jeunesse qui pouvait s'exprimer, qui pouvait faire du rock'n'roll même pendant le régime de l'Allemagne de l'Est. On a vu aussi un autre réalisateur, lui iranien, avec Les Chats Persans, qui a montré tout ce qu'on pouvait faire aussi dans le Téhéran moderne. Enfin, parce que on a souvent, nous occidentaux, une vision un peu étriquée de ce qu'on peut faire dans les régimes totalitaires. Enfin, forcément, tout le monde n'est pas prostré chez lui. Et il y a toujours un moyen aussi de montrer par le contre-champ, par les libertés qu'on peut avoir en jouant du rock dans les caves, où on peut montrer exactement le sordide de l'État totalitaire. Et là, ce n'est pas du tout le cas, puisque là, on est vraiment dans une vision, dans la vision de ce lycée. Voilà. Donc je recommande L'œil invisible, Diego Lerman. C'est à toi, Marie.
Donc, La solitude des nombres premiers de Averio Costanzo. La métaphore mathématique des nombres premiers qui ne peuvent se diviser que par eux-mêmes ou par un sert d'illustration à l'incapacité des deux personnages de l'intrigue à s'adapter au monde dans lequel ils vivent et à sociabiliser avec leur entourage. Alice et Mathia vont vivre chacun un événement traumatisant dans leur enfance qui change le cours de leur vie et les plonge peu à peu dans la névrose. C'est une histoire d'amour peu commune et réellement impossible qui va naître lorsque ces deux enfants vont ensuite se rencontrer une fois adolescents et être attirés l'un par l'autre, poursuivant ensuite à l'âge adulte une relation faite de non-dits et de dépendance. Car certains nombres premiers sont des nombres jumeaux qui se ressemblent et sont proches l'un de l'autre, mais ne peuvent que se frôler sans réussir à se rencontrer, tout comme ces deux personnages qui ne se parlent qu'en chuchotant et partagent des souffrances qui les rapprochent tout en les séparant. Les deux acteurs, à fleur de peau, forment un duo atypique et très crédible, ajoutant à la sensibilité exacerbée de leur jeu un physique étrange qui déroge aux clichés usuels, en particulier Alba Rohrwacher, que l'on a pu voir dans de nombreux films italiens sortis en France ces dernières années, tels que Amore ou Chaos Calmo, qui double ici sa performance d'une métamorphose corporelle impressionnante. Le film est donc construit sur quatre périodes de la vie de Mattia et de Alice, en alternance avec des flashbacks qui, au fur et à mesure, se rapprochent de l'événement clé qui a changé le cours de leur vie. Cette construction, quoique efficace, apporte une dramatisation pesante, un peu excessive, centrant la trame de l'histoire autour de l'interprétation psychologique, selon laquelle tout ne serait que traumatisme. La plupart des scènes ne servent qu'à appuyer le propos, en donnant des raisons aux névroses, les figures matriarcales par exemple, soit trop froides, soit très envahissantes, le tout accentué par des ralentis appuyés un peu trop tragiques qui fixent l'instant prégnant, celui qui fera tout basculer. L'originalité cependant du film consiste à transposer le drame dans une ambiance de thriller, adoptant même la forme du giallo, ce genre typiquement italien du film d'horreur qui fut la spécialité de Dario Argento, Mario Bava ou Lucio Fulci, et qui mêle effet de caméra à une musique décalée et envahissante. L'ambiance de mort et de folie est justement appuyée par un jeu sur cette musique, tour à tour diégétique ou extra-diégétique, mais toujours omniprésente et décalée par son côté désuet qui s'intensifie jusqu'à envahir au cours des scènes les plus angoissantes. En filmant à hauteur d'enfant lors des retours dans le passé, le réalisateur Averio Costanzo génère une peur très efficace, construisant un film qui respire la souffrance, transpire la démence, dans un climat presque trop oppressant, et détourne les figures classiques du drame pour créer un suspense inhabituel dans ce genre de film. Les scènes les plus banales deviennent des allers-retours entre rêve et réalité, rendus par des effets de lumière épileptiques, comme lors de cette soirée entre lycéens, et les enfants sont mis en scène dans des plans inquiétants qui les transforment presque en personnages de films d'horreur. On oscille entre un onirisme doux et surréaliste à certains moments et une ambiance cauchemardesque qui atteint son apogée lors du final en forme de crescendo hallucinatoire qui n'est pas sans rappeler un certain Requiem for a Dream. La solitude des nombres premiers, malgré le fait que la réussite des scènes soit plutôt inégale, est donc un exercice de style assez réussi, quoique un peu trop éprouvant.
Ouais. Oui, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Enfin, exercice de style, ça c'est évident parce que, enfin, parce qu'il y a la lumière effectivement, enfin, qui est très bien travaillée, la musique, le rythme du film avec ce montage. Alors moi, j'avoue que j'ai été aussi agacé par le côté flashback où on apprend petit à petit ce qui s'est passé, quel est le drame qui noue ces deux personnages. Mmh.
Ça fait un petit peu fiction télévisée.
Voilà, puis au bout d'un moment, on s'en doute très bien. Enfin, donc c'était pas, enfin, ou alors il aurait fallu qu'il raccourcisse ces événements. Mais et après, bah, c'est une histoire improbable. Enfin, mais c'est aussi pour ça qu'elle peut être belle. Mm. Voilà.
Enfin, j'ai trouvé quand même assez efficace. Je sais pas vraiment si je le recommande parce que j'ai trouvé, comme je dis, vraiment trop éprouvant. Mm. Parce que très réussi. Enfin, moi, en tout cas, il m'a complètement paniqué. Je pense que j'aurais vu un Scream 4, j'aurais eu moins peur. Mmh. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de terreur, puisque notamment un des personnages, le personnage féminin, est terrorisé par des jeunes filles, par ses camarades. Donc il y a des choses fortes comme ça. C'est un drame.
Un gros drame.
Merci Marine. Et tu, même si tu ne recommandes pas, on peut dire où ça passe.
Oui, bien sûr. Non, ça passe toujours au Diagonal. Je pense à l'Utopia bientôt aussi, mmh. Il me semble.
Et maintenant, le gros morceau.
Oui,
la star.
On va délaisser un petit peu très rapidement le cinéma, puisqu'il n'y a pas que des stars de cinéma, il y a aussi des stars de la bande dessinée. Et là, ça tombe bien, puisque Enki Bilal, c'est aussi un cinéaste. Voilà, pour beaucoup de gens, c'est surtout un immense auteur de BD. Mais il a fait quand même trois films, Enki Bilal. On peut citer Bunker Palace Hotel en 1989, donc sur un scénario de Christin et de Bilal. Film avec Jean-Louis Trintignant, Carole Bouquet, Jean-Pierre Léo. Il a signé également Tico Moon en 1996, donc toujours au scénario Bilal et Dan Franck cette fois-ci, avec Michel Piccoli, Richard Boringer, Julie Delpy devant la caméra. Et enfin en 2004, il a signé Immortel Ad Vitam, donc adaptation de sa trilogie La Foire aux Immortels, avec Linda Hardy, Thomas Kretschmann et Charlotte Rampling. Alors, Bilal vient de sortir un nouvel album de bande dessinée, Julia et Rome. Il était invité par la librairie Soramp ce vendredi dernier pour parler un petit peu de cet album et j'ai pu le rencontrer. Donc, l'occasion de discuter avec lui de la BD, mais on n'en parlera pas dans cette émission puisque nous nous consacrons au cinéma et de parler avec lui aussi de son amour de l'hybridation. Il aime mélanger les arts, il touche à tout. Il a présenté une pièce de théâtre, il a mis en scène une première pièce de théâtre l'année dernière, en 2010, au théâtre Jacques Coeur de Latte, Suspection, avec Evelyne Bouy et la voix de Jean-Louis Trintignant. Alors, juste quelques mots pour vous donner des pistes pour l'interview. Julia et Rome, donc son nouvel album qui sort ce mois-ci, voilà, se passe dans un monde post-apocalyptique. La Terre s'est réveillée, s'est secouée les Chines, et les humains ne savent plus où ils ont mis leurs petits. Donc le premier, en fait, ça fait partie d'un cycle qui sera une trilogie, la trilogie du coup de sang. Le coup de sang, c'est comme ça qu'il a appelé le cataclysme. Il n'aime pas trop ce mot, donc c'est plutôt l'événement qui s'est passé et qui a mené vers ce monde apocalyptique. Et Julia et Rome, comme son titre l'indique, c'est une sorte de variation autour de William Shakespeare, bien sûr, et de l'histoire de Roméo et Juliette. Donc voilà, je termine cette présentation et je vous laisse en compagnie du maître.
Enki Bilal, bonjour.
Bonjour.
Alors, on ne vous présente plus, vous êtes un géant de la BD, vous êtes aussi un touche-à-tout, vous faites du cinéma, vous avez eu fait des décors de cinéma. Vous faites des spectacles, vous avez été illustrateur pour des livres, etc. Et vous venez présenter votre nouvel album, une double publication en fait, donc support papier, un album BD traditionnel, et aussi une publication numérique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi vous avez choisi de faire ce double support en fait?
Alors ça, c'est un projet éditorial, c'est mon éditeur qui m'a parlé de ça. Je, comme tous les éditeurs, Casterman s'intéresse à ces prolongements de l'objet livre, comment il peut exister sous d'autres formes, avec effectivement le débouché sur Internet, sur l'iPad, etc. Donc c'est comme ça que c'est au cours d'une discussion avec mon éditeur que l'idée est venue. Et moi, évidemment, ça m'intéressait parce que comme je travaille case par case, chaque image étant libre, puisqu'après, ça me permet de les monter, de les recadrer éventuellement, de jouer vraiment de manière libre sur la narration. Chaque case est indépendante et surtout, le texte apparaît seulement sur ordinateur. Je le mets au dernier moment, le texte. Donc, on a des images pures. Et ça te permet évidemment de gagner du temps, on les scanne, ensuite elles défilent l'une après l'autre, contrairement à une bande dessinée où on a des doubles pages, où on voit tout de suite 5-6 images d'un coup, et on est malgré tout, la narration est légèrement altérée par cette présence des images qu'on enregistre malgré soi. Alors que là, donc, c'est l'esprit cinématographique du déroulement, image après image, donc bande-son. J'ai demandé à mon complice musicien Goran Vejvoda de faire une bande-son. Deux possibilités, une lecture simple avec des textes sous les images et une autre, la narration, une voix qui raconte, qui lit absolument tous les textes, les dialogues, les voix off. J'ai fait cette lecture parce que ça m'intéressait et que je trouve que ça fonctionne. C'est pas du tout une performance d'acteur que je ne suis pas comédien, mais au moins j'ai la sensation, j'ai le rythme, je sais ce que veut dire ce texte puisque je l'ai écrit, je l'ai beaucoup travaillé. C'est un texte très travaillé, puisque précisément le fait qu'à certains moments apparaît la langue de Shakespeare, il fallait faire un vrai dosage, un équilibre aussi avec les images. Donc il y a une musique dans l'écriture. Et cette musique, moi, je la rends, forcément, j'en rends compte naturellement, puisqu'elle vient de l'intérieur, elle vient de moi. Un comédien aurait fait sûrement une meilleure performance de lecture, je dirais, mais il n'aurait peut-être pas été parfaitement dans le ton qui convient à ça, voilà. Donc voilà, c'est la nouveauté, elle est là, dans le fait qu'il y a ces deux versions, et que surtout, il y a ce rapport à l'image qui est dans le déroulement, image après image. Il y a d'autres sophistications qu'on peut imaginer pour la suite. Là, on est dans quelque chose d'assez sobre volontairement, parce que techniquement, ce n'est pas si facile que ça à faire. Donc, on n'a pas d'effet, à part quelques fondus légèrement, etc. On n'a pas d'effet de zoom, éventuellement léger, mais d'effet de montage cinéma. On peut revenir sur des images, on peut faire un travelling dans une image. Bon, il y a plein de choses à faire, mais là, on est dans quelque chose, dans un rapport assez, assez sobre.
Vous aimez beaucoup mélanger différentes techniques de narration, hybrider les arts. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Ciné Monstre, le spectacle que, justement, vous avez créé avec Goran Vejvoda, ouais. Vous avez présenté, je crois, cette semaine
À la Cité de la Musique à Paris, c'était, enfin, moi j'étais très 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 heureux de faire ça parce que la salle était exceptionnelle, il y avait du monde, une acoustique magnifique. Et puis voilà, ça commence à prendre vraiment corps. On a déjà joué au moins une vingtaine de fois, à travers la France, à l'étranger. On l'a joué à Bangkok, on l'a joué à Belgrade, à Sarajevo. Et donc, qu'est-ce que Cinémonstre ? En fin de compte, c'est une commande. En 2006, la Géode, toujours à la Villette, à Paris, me propose par Goran Vejvoda, par l'intermédiaire de Goran, me dit, voilà, est-ce que nous, le son nous intéresse, on fait des installations sonores, on fait un festival autour du son, etc. Est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose autour de vos films et de la musique, du son par rapport à vos films ? Alors moi, je réfléchis un peu, et l'idée de me vient assez rapidement, l'idée de faire une compression, parce qu'il ne fallait pas que ça soit très long, donc le spectacle dure 1h10, 1h15 à peu près. Il fallait que... Je pensais à une compression de mes trois films. Donc un montage des trois, quelque chose d'assez libre, brutal, même un peu à la hache, un peu sans véritable ligne directrice. Sinon, se laisser porter peut-être par deux mouvements, deux enchaînements d'images venant de deux films différents, puis il y a un troisième qui arrive parce qu'il y a une couleur qui permet qu'on enchaîne, enfin ainsi de suite. Et donc de faire cette compression des 5 heures de film, hein, les trois films, ça fait à peu près 5 heures au total, de le ramener à 1h10, et puis de confier à Goran, donc le musicien, un travail en live pendant la projection du montage, que lui intervienne avec des sons, des instruments, et apporte une improvisation sonore sur ces images et sur ce montage sonore lui-même. Donc l'idée est validée et plaît à la Géode, et on le fait, on le crée donc pour la Géode. En deux, trois jours maximum, je fais ce montage, en partant des trois DVD de mes trois films. Et puis bon, évidemment, la chose s'enrichit, le montage n'a pas bougé, mais par contre, au niveau du son, Goran amène des choses, et puis improvise, hein, expérimente à chaque nouvelle performance. Et un jour, il me dit, écoute, il faut que tu montes sur scène aussi, tiens, je prends ça dans les mains, il me donne une espèce de console, mini-console comme ça, tactile, avec, il me dit, ouais, il m'explique, bon, il y a une centaine d'effets qui interagissent directement sur l'image. Alors, je teste les effets, évidemment, donc il y en a plein qui ne m'intéressent pas parce qu'ils sont géométriques, c'est des images qui se dédoublent, machin, bon, qui est en petit carré, triangle, enfin. Mais il y a une dizaine d'effets qui me conviennent et que je sélectionne, qui sont des effets plus organiques, de morphing, même des effets de désaturation, de saturation, des effets de négatif. Et donc je sélectionne ces effets, et en même temps, du coup, maintenant je suis face à lui de l'autre côté de la scène, entre les deux il y a l'écran, la projection se fait, Goran improvise ses sons, et moi j'improvise des effets. Donc on a quelque chose de plus abstrait, le spectateur ne sait plus exactement ce qui a été trituré par moi ou pas, ne sait plus exactement quel est le son qui provient vraiment du film et celui qui provient de Goran. Bon, bref, on est dans quelque chose d'un peu, c'est une performance un peu hybride. Et donc ça, voilà, je veux dire, l'accueil est toujours très très intéressé. Les gens sont un peu déboussolés, mais en même temps fascinés. Ils sont happés par le montage parce qu'il y a quand même une frénésie, il y a une accélération, il y a quelque chose de très dense là-dedans. Et puis en plus, il y a un casting exceptionnel parce que évidemment, sur les trois films, j'ai quand même il y a du beau monde et voilà. Donc c'est une très belle expérience.
Chers amis, si vous le permettez, en dépit des circonstances malheureuses qui font que nous sommes ici, et cette table étant pour l'instant inoccupée, je crois qu'il convient de célébrer notre réunion. En l'absence du président, je suis sûr de traduire sa pensée en levant mon verre à notre passé, à notre avenir, à la sagesse du président également, puisque c'est grâce à lui que nous pouvons disposer de ce havre de paix. Au passé, à l'avenir.
Au passé, à l'avenir.
Au raté, à l'abîme!
Non, mais tu entends ça?
Pourquoi n'y a-t-il rien sur les écrans de téléviseur? Nous devons être informés pour agir.
C'est ça, agissons! Par où on remonte? Moi, je prendrai bien l'air pour commencer.
Faites le tel.
Alors justement, cette idée de compression, vous l'aviez déjà un peu faite avec le scénario d'Immortel, puisque vous aviez comprimé voilà, les trois tomes de la trilogie Nicopole en un seul film. Est-ce que dès le départ, vous vouliez faire une nouvelle histoire à partir de l'univers de la trilogie, ou est-ce que ça s'est imposé à vous un peu en fonction des contraintes techniques ou financières du cinéma ?
Bon, il y a un peu des deux, mais non, au départ, c'était l'idée, évidemment, c'était de... On ne pouvait pas faire la trilogie Nicopole au cinéma. Ça, il aurait fallu avoir 9 heures de film, quoi, pratiquement. Donc, non, j'ai voulu garder quelques éléments clés, un peu, par exemple, la scène du rail, la grève du rail sur la jambe de Nicopole, bon, des choses comme ça. Et puis surtout... en fin de compte, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'histoire à trois de Jill, de Nicopole et de Horus. Bon, alors même s'il a un peu changé, parce que la Jill du film n'est pas du tout la même que celle visuellement, évidemment, elle se ressemble, mais sur le plan du parcours, c'est pas du tout la même chose. Ce qui prouve d'ailleurs que c'était une volonté de déconstruire et de reconstruire autrement. Enfin, donc c'était ça le cœur du film. Le reste. Qui s'est un peu enferré dans des problèmes techniques et de budget et qui m'a rendu assez malheureux et même furieux, c'est l'aspect 3D des personnages réalistes qui ne fonctionne pas, parce que là j'ai pas eu ce qu'on m'avait promis. Voilà, j'étais un peu naïf dans cette histoire là j'ai cru que j'aurais la qualité de Final Fantasy et je n'ai pas eu la qualité de Final Fantasy.
J'ai également hérité du département des nano-implants, mais on met surtout le paquet sur les peaux synthétiques.
Tu n'es pas rancunier?
Merci de me le rappeler.
J'ai l'impression qu'il y a certains personnages où il y a eu plus d'attention portée. Le personnage de Trintignant, par exemple, oui. Fonctionne mieux que le personnage du dictateur.
Mais le personnage de Trintignant, c'est pas la même technique non plus. C'est une technique, le terme m'échappe, enfin peu importe, mais la rotoscopie. Voilà. C'est-à-dire que c'est un vrai personnage, on lui a juste mis la tête de Trintignant, donc on a pu travailler, même si la ressemblance n'est pas parfaite. Mais effectivement, c'est très inégal. On sent les différences techniques et on sent surtout qu'à certains moments, il n'y avait plus de moyens. De temps, d'argent, etc., pour aller au bout. Donc, grosse erreur. Bon, je suis les plâtres, hein, c'est pas grave. Mais en même temps, le film, malgré tout, a plu à des gens. Il y a des tas de gens que ça n'a pas gêné. On est habitué aussi à ça. C'est plutôt les techniciens, ceux qui sont les purs et durs, qui sont un peu durs vis-à-vis de cette partie. Moi, le premier, d'ailleurs.
C'est pas vrai, à la fin, ce bordel. Cette saloperie d'ascenseur complètement cramé maintenant. Merde, 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 merde.
Mais sinon, non, c'est un film que moi j'assume à fond et j'ai l'histoire des trois personnages, je trouve qu'elle fonctionne et il y a même une part de poésie qui s'en dégage à la fin. Le film a fait quand même 1 million d'entrées, donc c'est pas rien, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est pour répondre à la question, c'est effectivement de la déconstruction et une façon de revisiter quelque chose qui existe sous une autre forme, sous une forme de bande dessinée. Et c'est pas curieux d'ailleurs, c'est assez logique, le film a davantage plu à ceux qui connaissaient pas, ou très peu, la bande dessinée. Vraiment, il y a des gens qui se disaient, on va voir un truc de science-fiction, et qui finalement ont été vraiment touchés, parce qu'ils ont trouvé que c'était à la fois poétique, à la fois que c'était touchant, que cette histoire à trois, enfin, c'est une espèce de Jules et Jim, un peu bizarrement, mais... Et donc ça a plu assez... Alors ceux qui ont moins aimé, ou rejeté le film, c'était les purs et durs qui voulaient que, à la page 12 de l'album, il corresponde une scène, voilà. Mais ça, évidemment, c'est impossible.
Vous aimez cette planète ?
Elle a un certain charme.
Mais tout cela ne vaut pas le poison qui découle de tes yeux verts. Là que mon âme tremble et se voit à l'envers. Mes songes viennent en foule pour se désaltérer à ces gouffres amers.
Tout cela ne vaut pas le terrible prodige de ta salive qui mord. Jill, qui plonge dans l'oubli mon âme sans remords, et charriant le vertige, la roule, défaillante, aux rives de la mort.
Tout ça, c'est très dense, hein, c'est une matière très dense, donc il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est quelque chose de... Finalement, c'est beaucoup plus simple que la bande dessinée, c'est que la littérature, c'est quelque chose de... quelque chose qui doit être accessible immédiatement. Donc, c'est pas l'art qui domine les autres, comme on le croit. On le croit parce que simplement, il y a l'effet star, il y a l'effet glamour, il y a l'effet Cannes, les Oscars, on rêve, Hollywood, etc. Mais le cinéma, c'est pas un moyen d'expression d'une grande force et d'une grande densité, d'une grande profondeur. Un film peut être magnifiquement touchant, etc., mais c'est quelque chose de... C'est un objet de consommation, on veut dire. Voilà. Alors évidemment, il vaut mieux que ce ne soit pas du fast-food, ça peut être de la consommation de qualité, donc la saveur doit rester longtemps en bouche, comme ça, on doit être habité par un film réussite, un film qui vous habite longtemps. Donc ça, c'est un peu comme toutes les œuvres d'art de qualité. Mais le cinéma, ce n'est pas l'art qui est au-dessus des autres, c'est un art effectivement moderne, parce qu'il mélange à la fois le son, le mouvement... et l'émotion brute. Mais pour vraiment aller au fond des choses, l'écriture c'est mieux, même la bande dessinée c'est mieux. Ouais.
Et pour ceux qui savent encore lire, n'oubliez pas le livre de l'homme venu du passé, Spirit of Nicopore Story, le livre culte de la subversion.
Pour revenir donc à votre nouveau cycle du coup de sang, on parle d'une adaptation en film d'animation de Animals. Où en est cette idée de projet? Est-ce que vous allez garder la capture de performance et la rotoscopie comme sur Immortel, ou est-ce que vous partez sur de l'animation plus traditionnelle?
Alors non, l'animation traditionnelle, non, on l'a écartée. On est parti sur effectivement motion capture. Et on a fait des tests. On a fait des tests aussi parce que je veux que si c'est de la 3D, je souhaite que ce soit habillé de mon graphisme. Donc qu'on sente le graphisme, les dessins, que ce soit pas hyper réaliste comme Avatar ou comme même ce qu'on a essayé et qu'on n'a pas réussi dans Immortel. Donc là, on se rend compte que si on veut avoir une qualité constante sur 1h30 de film, si on veut avoir quelque chose de performant et donc qui soit à la hauteur d'une ambition, on va dire, d'un choix de perfection, ça va coûter extrêmement, extrêmement cher. Et je ne suis pas sûr qu'on ait l'animation idéale pour mon style de dessin, qui est quand même assez réaliste, malgré tout. Même s'il s'est décalé, on est quand même dans quelque chose de réaliste. Donc j'abandonne l'idée de la 3D animation. Et là, je préfère partir sur des vrais acteurs, costumes réels, du vrai cinéma. Et ensuite, le tout dans un contexte en 3D. C'est-à-dire que ramener de la 3D qui puisse matcher avec les personnages. Donc on n'est pas loin de la rotoscopie et des choses qui ont marché dans Immortel, qui fonctionnaient bien. Quand on voit Linda Hardy se balader dans New York, etc., dans cette ville un peu, ou d'autres personnages, Nicopole, Thomas Cratchman, ça marchait. Charles Trampling également. Là, ça fonctionne. Mais non, l'idée d'amener quelque chose de graphique, ouais, une texture graphique. Donc ça, c'est l'idée, c'est ça, effectivement. Alors, est-ce qu'on rajoute après sous quelle forme? Mais il y a des tas de possibilités. Il y a des possibilités aussi de maquillage. L'éclairage va jouer énormément. Moi, j'ai un éclairage qui est toujours invariable, et c'est un choix, hein, qui est un éclairage qui vient d'en haut. J'ai jamais de l'éclairage latéral, vous verrez, dans mes dessins, il n'y a jamais de clair-obscur. On n'a jamais un visage moitié dans l'ombre et l'autre dans la lumière. Donc c'est plutôt l'inverse, ça vient d'en haut. Et donc... des partis pris comme ça, assumés, un film qui serait éclairé toujours de la même manière, ça crée une distorsion. On se rend compte qu'on n'est pas tout à fait dans le réalisme. Donc il y a plein de choses à faire comme ça, en post-production évidemment, de la désaturation, densité de l'image, contraste accentué ou pas, enfin il y a plein de choses à tenter, et c'est ce qu'on va faire maintenant.
Ça, inclinaison parfaite. Même quand vous serez mort, le sang circulera dans de bonnes conditions.
Pas très confortable. J'ai une espérance de vie de combien là-dedans?
Avec un peu d'uranium enrichi et de nouveaux organes, une éternité.
Et à deux? Ça existe? Les modèles à deux places, parce qu'il y a ma femme aussi.
On pourrait l'envisager, mais il faudrait diviser le temps.
Alors non? L'amour ne vaut pas le sacrifice d'une demi-éternité.
Et à l'inverse, vous avez jamais eu envie d'adapter en vrais albums de BD Bunker Palace Hotel et Tico Moon?
Non, alors ça, dans ce sens-là, ça ne m'a jamais intéressé. Alors par contre, j'avais pensé à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est intéressant qu'un éditeur décide à un moment de créer une collection où des grands films sont adaptés en bande dessinée. Alors effectivement, pourquoi pas? Mais j'ai bien peur qu'on perde là, qu'on soit perdant en champ. Enfin, alors il faudrait à ce moment-là ramener de la densité, ramener du texte. Si on ne prend que les scènes et on les déroule par le dessin, on n'est pas gagnant.
Non, parce que ça, on revient sur le storyboard, voilà. En fait, qui est à l'origine du film. Dernière question, et je vous libère. Est-ce que vous avez d'autres projets de cinéma, donc à part cette adaptation d'Animals, des scénarios dans votre tiroir ?
Alors, il y a un projet que je ne mettrai pas en scène, moi, mais qui est en train de se concrétiser un peu, mais il faut toujours être très, très prudent avec le cinéma, c'est Les Phalanges de l'Ordre Noir. Alors, Pierre Christin va faire une première mouture pour donner la direction, je dirais, du scénario, mais ce serait un film donc live, normal, hein, évidemment, qui pourrait se faire dans les mois qui viennent. Et moi, je pense qu'un par exemple, le scénario de Julia Erom peut faire un film live assez pur, assez épuré, une nouvelle version un peu comme ça de Juliette et Roméo. Je connais celle de Zeffirelli, qui est très classique, hein. Celle de
Norman,
voilà, qui est barré, déjanté, décalé, avec DiCaprio, avec un super Mercutio noir, hein, donc il a déjà fait un truc. Donc, mais il a gardé le texte shakespearien de bout en bout. Là, du coup, ce qui est intéressant, c'est ce morphing, c'est un coup ce Shakespeare qui arrive de manière insidieuse mais brutale dans le film. Quoi. Là, il y a quelque chose d'intéressant à faire, et en rajoutant évidemment de la matière pour le film, parce que l'album est très très épuré et très elliptique, hein, volontairement. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait éventuellement. Et puis j'ai un autre projet, alors, qui est beaucoup plus radical. Un jour, si je dois me faire plaisir, j'essaierai de faire ce film, qui ne serait pas forcément un film ultra commercial, mais qui serait un film que j'assumerais à fond. Mais c'est difficile d'en parler comme ça.
Ben merci beaucoup, Enki Bilal.
Merci, merci à vous.
Extrait de la bande originale de Immortel Ad Vitam, un morceau qui s'appelle Jartao Amast de Sigur Rós. C'était bien sûr Enki Bilal, donc géant de la bande dessinée et cinéaste, qui nous parlait un petit peu de son rapport avec le 7e art et puis avec l'hybridation des médias, des arts. Tout ça, vous pourrez retrouver une version longue de cette interview où on parlera un peu plus bande dessinée, pour le coup, vendredi à 15h et samedi à 10h. Pour approfondir un petit peu les relations entre BD et cinéma, je vous renvoie à l'émission du 20 janvier 2010 où j'avais fait un dossier un peu plus complet sur ces auteurs de BD qui passent au cinéma, sur les adaptations de BD au cinéma, etc. Je mettrai incessamment en ligne la version papier de ce dossier sur le blog cinerama.over-blog.fr. Pour terminer, je tenais juste à remercier Céline et Delphine de la librairie Sorams qui m'ont permis de rencontrer une de mes idoles de la BD, mais aussi du cinéma. C'est des films que je vous recommande chaudement.
Et puis t'as pas perdu ton temps puisqu'on t'a offert la dernière BD.
Tout à fait, voilà, j'ai pu découvrir ce nouveau cycle, je me suis acheté le premier tome de la trilogie aussi, c'est un changement de style, on parle BD très rapidement, c'est un changement de style par rapport à la tétralogie du monstre qui précédait, où il y avait une sorte de surcharge graphique, mélange de plein de techniques. Là, sur ce nouveau cycle, il y a vraiment une épure, il choisit un papier coloré pour chaque album, et ensuite il travaille beaucoup au crayon, au fusain noir, quelques touches de blanc, de rouge, de bleu, mais très léger. On est dans quelque chose de très épuré, de très très beau.
Merci beaucoup Martin pour tous tes efforts. On passe maintenant à une folle envie, c'est toujours Cinérama, l'émission du 18 mai. Avec une folle envie, je voyais enfin une comédie après 4 semaines de drame en tout genre, mais drame quand même. Une comédie, alors prend comme prétexte à la drôlerie un sujet, ici un couple qui s'aime mais qui n'arrive pas à faire d'enfant. Un sujet qui aurait pu faire l'objet d'un drame, mais en rire ne fait pas de mal. Et d'ailleurs on a affaire ici à une comédie romantique, une nouvelle de Bernard Jean-Jean qui avait réalisé en 2004 Je me sens pas pas belle, avec Marina Foïs et Julien Boisselier, une comédie en huis clos bien écrite sur une femme qui, par peur de transformer un plan cul en histoire d'amour, se cachait derrière ses mensonges. L'histoire d'une folle envie est bien balisée. On a là deux Parisiens, provinciaux, trentenaires, lui qui vend des voitures, elle qui préférerait monter un site de produits bio plutôt que de reprendre l'épicerie familiale. Comme la procréation, et ce n'est pas faute d'essayer avec toutes sortes de techniques et de positions, n'a aucun résultat, le couple va chercher dans toutes les directions. Alors, est-ce lui, est-ce elle? Et puis après tout, n'y a-t-il pas quelque chose à chercher dans la famille, chez ses propres parents? Est-ce qu'on ne suit pas bêtement le schéma familial, puisqu'on apprend entre autres que les spermatozoïdes de monsieur sont un poil lents pour la compétition, ne serait-ce pas parce que dans la famille, ça n'a jamais tourné rond, vu qu'on n'a jamais pu discuter avec le père, par exemple. Des questions de psychogénétique qui flirtent avec la psychanalyse, ça, on s'en serait peut-être bien passé, car ce sujet-là était un sujet à lui tout seul. Stévenin, qui interprète le père de Clovis Cornillac, est un paysan breton qui n'entend rien à toutes ces subtilités, un gars simple qui aime bien qu'on file droit, qui préfère se voiler la face et être désagréable avec tout le monde, de couvrir le dialogue. Un personnage qui aurait donc mérité plus d'épaisseur. Alors ici, il n'est qu'un faire-valoir, un alibi court pour combler le temps qui nous amène au dénouement du film. Auront-ils un enfant, voire deux ? Une fois le problème de la famille presque réglé, il reste la science, les groupes de parole et les amis dont certains sont un peu olé olé et proposent une thérapie où la règle est de briser le train-train du couple. Il y a une très belle séquence où la danse, qui peut être très sensuelle dès lors qu'on s'éloigne de la bourrée ou du pogo, prend une place particulière dans un climat sourdement libertin. Et si on échangeait nos cavalières et si le couple n'avait plus aucune importance quand on ne peut plus procréer ? Le traitement est un peu appuyé, mais on remercie Bernard Jean-Jean d'avoir osé poser le problème. Mais ça n'est pas une comédie immorale, ni bas du front, ni comme le sujet pouvait le permettre, et bien grivoise. Il y a beaucoup de retenue. Le film tâtonne dans beaucoup de directions et ça fait souvent mouche, sauf peut-être autour de la famille du couple malchanceux. Une comédie très bien écrite, joliment interprétée par Olivia Bonamy surtout, et puis quand même par Clovis Cornillac, autant sensible que brute de décoffrage. On trouve aussi des seconds rôles, Jean-François Stévenin en père mutique, Marianne Denicourt qui développe ce qui se cache de séduction et de douceur dans le regard. Mais on va écouter Clovis Cornillac et Olivia Bonamy qui étaient en visite à Montpellier.
Yann et moi, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Il était temps de passer à autre chose.
Je vais arrêter.
Pourquoi ?
La pilule, Yann.
Il a tout de suite été très enthousiaste.
C'est pas de avoir un bébé ! Pardon !
Assez pressé, même.
Tu crois que ça vient de moi, nos soucis ?
Ou de moi ? Il fallait revenir aux fondamentaux.
C'est pas drôle de pas arriver à faire un gamin. C'est pas drôle d'avoir des familles qui, de temps en temps, peuvent être un peu lourdes ou un peu de ça. Mais si on pousse le curseur un peu, si aussi dans cette histoire d'amour et d'humour, ça se marie bien, alors c'est pour ça que je trouve que le film est très positif, c'est parce qu'on a tous des soucis dans la vie. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas de gens qui n'ont pas de problème. Après, le cinéma a de temps en temps cette vertu, je trouve, ça ne donne pas de leçons. Mais juste, tu sors avec une petite lumière et avec la pêche. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'univers de Bernard Jean-Jean, c'est qu'il y a ce voyage dans l'émotion, quoi. Finalement, rire, c'est une émotion. Et puis derrière, tu as un petit truc où je trouve que... Il y a plein de scènes avec Olivia que je trouve bouleversantes. Je trouve qu'il y a des moments où je me fais cueillir. Je me dis, ah ouais, ah, merde, j'espère qu'ils vont... Et hop, derrière... Il y a une connerie qui arrive et ça me fait marrer.
C'est vraiment un film d'amour avant tout. C'est vrai que Bernard, on parle souvent de comédie romantique, il aime bien la nommer comédie d'amour. Et je trouve ça très juste pour ce film. Et voilà, mais maintenant, on sait bien que... voilà, c'est le parcours d'un couple. C'est aussi une très belle vision du couple, je trouve, ce film. Et le parcours d'un couple, il y a toujours des petites zones de turbulence, de remise en question, de... Mais si au premier échec, tout s'écroule, c'est que ça tenait pas bien fort, l'amour.
Comment on fait les bébés ?
C'est pas si dur.
Justement, c'est plus dur du tout. Alors Yann s'est plongé dans des ouvrages scientifiques.
Oh.
On a consulté les plus grands spécialistes.
Ce sont des amourettes aux sauces piment et gingembre. Ça redonnera de la vigueur à ta semence molassonne. Ce sont des coronesses de taureau.
J'ai dit oui. J'ai mangé des couilles.
Moi, j'y crois à ce gars-là. Donc, je peux en faire trop, pas assez, je sais pas. En tout cas, c'est à fond dedans. J'ai confiance dans le regard de la personne qui va me diriger. Donc, je dis, voilà, si t'achètes, c'est que ça te plaît. Si ça te plaît, c'est que c'est ton film. Donc, finalement, justement, c'est là, quand c'est bien écrit, tu sais pas pourquoi tu peux croire à des choses incroyables. Je m'estime pas intelligent dans la vie, mais moins con souvent que certains personnages que j'ai pu faire, mais quand je les joue, j'adore, parce que je suis en osmose, quoi, avec, j'essaye pas de dire, je veux pas me départir, je sais pas, si je joue, c'est cette histoire d'amour, par exemple, qu'on a joué, ça m'aurait fait chier d'avoir du recul en jouant avec Olivia, en me disant, joue que t'es amoureux, quoi. Je sais pas, il y a pas, on s'amuse même pas, du coup, parce que les gens s'observent, tu te regardes jouer, tout ça. Ben, il y avait dans un film de Clapiche, par exemple, je me souviens de... j'aime beaucoup cette actrice, elle faisait la boulangère dans Paris.
Karine Viard.
Karine Viard, quand elle dit bonjour aux gens, bonjour, c'est une caricature. Mais quand je vais chercher mon pain, très sincèrement, je suis face à une caricature. C'est très souvent, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que j'aime ça?
Bonjour. En vous remerciant.
T'en parles très bien, Clovis.
De Karine Viard?
Non, non.
Bref, il fallait se remettre en question. Vous n'avez jamais été enceinte?
J'ai eu deux belles histoires, mais qui sont restées stériles. Stériles.
Et vous? Non, moi j'ai eu un peu plus de partenaires.
Je parlais grossesse, hein.
Un peu plus, c'est-à-dire?
J'aimais bien faire la fête, j'étais...
Une bonne vivante, on a compris.
Oui, on apporte, heureusement. En bien, en mal, en tout ça, il y a plein de choses qui sont à la poubelle. Il y a plein de choses après... De temps en temps, sur le plateau, tu dis, bon, bah, on fait celle-là, mais on ne la prendra pas. Puis finalement, elle y est. Parce que de temps en temps, les acteurs, on a aussi une sensation. On se dit, écoute, tu verras, parce que ça se trouve, et ça arrive régulièrement dans les films, que des prises, entre guillemets, d'acteurs soient dedans. C'est-à-dire simplement parce qu'il y a aussi, voilà, on a des points de vue, on vit les choses pas au même endroit, mais on a apporté comme on doit le faire, en fait. Pas plus, je crois pas. On y va?
On a fait preuve de beaucoup d'imagination. Nos amis nous ont même proposé de l'aide. Un peu trop, peut-être. On a fini par douter.
Ce qui serait pas si on n'y arrivait pas.
Et c'était que le début de notre histoire.
Vous vous servez de notre Kamasutra?
Ça nous a beaucoup aidé avec ton père. Surtout la sauterelle.
Et le singe.
Que de rire. Une fois l'envie, donc réalisé par Bernard Jean-Jean avec Clovis Cornillac et Olivia Bonamy, qu'on a pu entendre donc dans cette courte interview. Un film qui ne passe pas au Diagonal, mais qui passe plutôt au Gaumont, voilà, multiplex. Ben voilà, c'est une des rares comédies qui sort en ce moment. Et on passe maintenant au cinéma asiatique.
Et pas drôle du tout, très dramatique. Oui, donc La balade de l'impossible de Tran Anh Hung, cinéaste vietnamien, dont je vais vous parler à présent. Bien que vietnamien de son état, Tran Anh Hung n'a jamais été un cinéaste cerné par des frontières. Réfugié en France après la guerre du Vietnam, il se réfugie également dans le cinéma et c'est à l'école Louis Lumière qu'il fait ses études d'opérateur. Auteur peu prolifique, il ne réalise que deux courts-métrages pour se faire la main, avant de tourner en 1993 « L'odeur de la papaye verte », qui récoltera plusieurs récompenses prestigieuses, caméra d'or, César et nomination aux Oscars. Entièrement tourné en studio à Paris, malgré que l'action se passe au cœur du Vietnam des années 50, le film parvient à retranscrire une ambiance moite et lancinante dans le huis clos d'une famille traditionnelle, en annulant l'étroitesse des décors par l'amplitude de longs plans séquences qui deviendront sa marque de fabrique. Au cœur du film, la servitude de l'héroïne, notion qui, selon le réalisateur, est intrinsèque à la femme vietnamienne. Ce film débute sa trilogie vietnamienne puisqu'il sera suivi de Cyclo en 95 et de À la verticale de l'été en 2000. Cyclo, donc, se démarque totalement de L'odeur de la papaye verte en étant entièrement tourné à Ho Chi Minh, en extérieur, et suivant un scénario qui se passe de nos jours. Tran Anh Hung réalise une peinture sociale, encore une fois, mais avec un contexte plus violent qui montre la pauvreté et la criminalité, se permettant une critique des conditions de vie dans son pays et s'offrant même Tony Leung dans un des rôles principaux. À la verticale de l'été, ensuite, sera le film le plus marquant et le plus reconnu de cette trilogie. Aidé du chef opérateur de In the Mood for Love, Tran Anh Hung filme les relations entre générations d'aujourd'hui et la complicité de trois sœurs dissimulant chacune leur propre drame dans la quiétude d'une maison de Hanoï où elles se retrouvent pour les funérailles de leur mère. Salué unanimement pour sa maîtrise et pour sa beauté, À la verticale de l'été consacre définitivement Tran Anh Hung comme l'un des réalisateurs asiatiques incontournables. Il semble pourtant s'égarer quelque peu avec son film suivant, pour lequel il attendra 10 ans, titré « Je viens avec la pluie », il lui ouvre encore plus d'horizons cinématographiques puisqu'il s'agit d'une production espagnole avec dans le rôle principal Josh Hartnett, entouré d'acteurs japonais et coréens. Selon le trailer, puisque le film reste encore inédit en France, le style de Tran Anh Hung a pris une sérieuse dose d'adrénaline qui le rend purement méconnaissable, car on retrouve ici une histoire de tueur en série et de chasse à l'homme dans une ambiance noire qui emprunte apparemment largement à The Chaser et à Hellboy. Tout cela doté d'un budget de 20 millions d'euros et d'une musique composée par Radiohead. La date de sortie reste encore inconnue. Mais pour l'heure, c'est un autre de ces films bien plus intimistes et réalisé tout de suite après Je viens avec la pluie, qui vient de sortir sur vos écrans, La balade de l'impossible, dont je vais vous parler. Voilà, c'était la bande-annonce de La balade de l'impossible de Tran Anh Hung. La balade de l'impossible porte bien son nom car en effet, il vous sera totalement impossible de ne pas vous endormir devant. Le sous-titre Norwegian Wood fait allusion à une chanson des Beatles et l'action se passe dans les années 60 au Japon où le petit ami de Midori est amoureux de Midori qui est amoureuse de Watanabe qui est amoureux de Naoko qui est amoureuse de Kizuki qui s'est suicidé. Si ces feux de l'amour sauce soja vous paraissent incompréhensibles, ce n'est pas grave, vous aurez 2h15 pour vous y retrouver. Le film souffre par ailleurs d'une bipolarité de style assez aiguë, puisque la première partie n'est qu'un travelling permanent, tandis que la deuxième perd toute mouvance pour passer à une lenteur soporifique. Tandis que la caméra semble incapable de tenir en place au début, tournant autour des personnages, effectuant des travellings avant et latéraux totalement incompréhensibles, elle redevient complètement statique par la suite, accompagnant l'endormissement qui commence à vous gagner. Plaisanterie mise à part, cette balade de l'impossible est en fait la promenade effectuée chaque jour par Watanabe et Naoko, interprétée par Rinko Kikuchi que l'on a pu voir dans Babel, balade grâce à laquelle ils tentent de faire le deuil de leur ami Kizuki qui s'est suicidé auparavant. Adapté du roman éponyme de Murakami, le film est loin de rendre hommage aux ambiances savamment absurdes et complexes que l'écrivain s'est instaurées dans ses livres. Les acteurs ne retranscrivent pas une once d'étrangeté et se contentent de surjouer tout en faisant preuve d'une fadeur sans limite, malgré que le film traite de sujets aussi complexes que la révolution, la folie, le passage à l'âge adulte ou même le sexe, qu'ils parviennent à transformer en sujets profondément ennuyeux grâce à des dialogues aussi interminables que simplés. Plus le film avance, et plus les scènes s'étirent en longueur, plus la caméra devient statique et plus les images se réduisent à des clichés de films asiatiques que l'on a déjà vus et revus. Les flocons de neige qui tombent, les vagues qui heurtent les rochers, les branches qui s'agitent. On en vient même à regretter que la forêt, décor de l'intrigue, ne soit pas davantage filmée, car il faut reconnaître que la photographie est autant soignée que hypnotique, transformant cette forêt avec sa brume, son vent, ses rayons de lumière en un personnage à part entière qui est probablement le plus vivant du film. Voilà, donc ça me fait mal au cœur de vous dire ça en tant que fervente adepte de films asiatiques, mais là vraiment je ne peux pas vous le conseiller.
Non, visiblement.
J'ai essayé de le sauver, ce n'est pas possible.
Tu n'as pas été sensible au contemplatif, visiblement.
Non, c'était trop contemplatif.
Oh, merci Marine, on ne dit même pas où ça passe. Bon.
Encore un petit peu au Diego.
Voilà, un tout petit peu. Into The Eternity, réalisé par Michael Madsen, est un documentaire d'1h15, assez court, qui va faire sa petite carrière au cinéma Le Royal. Alors, que faire de nos déchets nucléaires? À mesure que l'industrie nucléaire se développe, nous devons penser à traiter ces déchets et à les rendre inoffensifs. Pour l'instant, on les enfouit dans des piscines. Les Russes, dit-on, les ont parfois balancés à la mer. Mais l'océan est l'origine de la vie sur Terre et les 250 000 tonnes de déchets radioactifs pourraient à terme dérégler la vie marine. Alors, parmi les solutions, la meilleure, semble-t-il, serait d'envoyer une fusée s'écraser sur le soleil. Mais comment peut-on être sûr que la fusée n'explose pas en vol avec des conséquences dramatiques? Chacun a sa méthode, mais un projet mené par la Suède et la Finlande, en Finlande, dépasse tout ce qu'on a pu imaginer jusqu'à maintenant. Et c'est de cela que traite Into Eternity. En résumé, ce projet est un vaste complexe souterrain de stockage des déchets à 400 km d'Helsinki qui devra rester hermétique pendant 100 000 ans. Sa construction a débuté dans les années 70 et s'achèvera à la fin du 21e siècle. Il devra être mené donc sur un siècle, ce qui est déjà un défi. Mais le plus gros défi est ailleurs. Aucune construction humaine n'a été élaborée pour durer autant de temps. Si on pense qu'Homo sapiens a 35 000 ans, on est plongé alors dans une échelle vertigineuse. Pendant ces 100 000 ans, les générations futures dont on ne sait rien, les hommes seront-ils tous joyeusement irradiés? Auront-ils développé de nouveaux sens, de nouvelles connaissances? Seront-ils partis sur Mars? Ces générations futures dont on ne sait rien ne devront pas s'intéresser à Onkalo, c'est le nom du projet. Ils ne devront pas supposer que c'est une immense tombe, signe d'un rite funéraire du passé sous peine d'être irradié en moins d'eux et de propager un poison invisible. Ils ne devront pas être aussi curieux que nous avec les pyramides qu'on a pu pénétrer. Alors ce sarcophage enfoui à 500 mètres de profondeur, prisonnier de la roche, doit rester totalement secret. Les scientifiques pensent qu'il y aura de la toundra sur cette roche et que la zone ne sera pas habitée, mais les scientifiques qui mènent le projet supposent plein de choses qui ne sont plus vraiment scientifiques, car il est impossible d'imaginer l'homme dans 2000 ans, dans 10 000 ans encore moins, et encore moins, on le pense, dans 100 000 ans. Michael Madsen les fait parler tranquillement, ces scientifiques, les déstabilise parfois. On est en présence d'un documentaire qui traite autant de questions scientifiques que métaphysiques ou anthropologiques. C'est passionnant, c'est effrayant aussi. On entre dans ce tunnel rocheux, on parcourt aussi les dédales froids de centres de recherche atomiques. Le film nous laisse penser qu'avec Onkalo, l'homme crée une saga, un mythe du malheur qui doit se perpétrer de génération en génération. Donc c'est un film glaçant, enfin qui moi m'a totalement transporté, parce que c'est vraiment métaphysique d'imaginer qu'on va construire un abri pour les déchets atomiques et puis le sceller avec du béton et penser que tout le monde va l'oublier. Enfin voilà, c'est proprement vertigineux. Donc je vous conseille vivement ce documentaire Into the Eternity, réalisé par Michael Madsen, qui traite d'un projet unique au monde. Et un des grands défis de l'humanité. Pour se détendre un peu par rapport à ce sujet, on va écouter un petit extrait du Docteur Folamour de Stanley Kubrick, puisque arrivent bientôt tous les films de Kubrick au Diagonal.
Eh bien, la première fois que je me suis aperçu de ça, c'était au cours de l'acte sexuel.
Mmh. Ah.
Oui, une profonde impression de fatigue, suivie d'un sentiment de vide. J'ai eu la veine de pouvoir interpréter le phénomène aussitôt. C'était une perte de substance. Je vous assure que ça ne s'est pas reproduit. Les femmes sentent ma puissance. Elles cherchent l'essence vitale. Je n'évite pas les femmes, Mandrake.
Non.
Mais je leur refuse ma substance.
Oui.
Oui, j'ai un peu oublié d'introduire l'extrait, puisque là on entend le militaire qui déclenche la guerre thermonucléaire mondiale, parce qu'il suppose que tous les fluides, l'eau, ont été contaminés par les Russes. Voilà. Et en fait, il parle juste de son impuissance. Enfin, voilà. C'est comme ça que se déclenche le grand conflit mondial. C'est dans Docteur Folamour de Stanley Kubrick qu'il y a autre chose que je n'ai pas précisé, c'est que Michael Madsen, l'auteur du documentaire Into the Eternity, n'est pas l'acteur de Tarantino, bien sûr, mais tout simplement un documentariste finlandais ou norvégien, d'ailleurs, je ne sais pas. Ainsi s'achève Cinérama, je le crois.
Oui, il nous reste à préciser que l'émission suivante, 24 notes secondes, consacrée à la musique de film, nous parlera aujourd'hui du cinéma italien des années 70 et 80.
Merci Martin, tu ne seras pas là la semaine prochaine, nous serons donc en duo, Marie.
Oui.
Et nous essaierons de proposer d'ailleurs deux quiz.
Des quiz.
Des quiz.
Des quiz en folie.
En voilà dans Cinérama. Ce sera donc la semaine prochaine. Cannes sera terminée. On pourra peut-être en
dire un mot.
En
oui,
dire
quand
un
même.
Petit mot. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Et puis la fin, l'extrait, c'est toi qui l'as préparé aujourd'hui, Marc.
Tout à fait. Alors je vous ai mis un petit extrait du Créateur, deuxième film de Albert Dupontel.
Et on remercie Bruno, qui est fidèle à la technique de l'émission.
Merci Bruno.
Merci, c'était parfait.
Il s'agit d'une histoire, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire, plus qu'une histoire à proprement parler, c'est-à-dire que c'est une histoire qui, le concept de l'histoire étant amené à débouchant sur un récit d'un aspect non littéraire, plus que de garder l'aspect traditionnel donc du récit littéraire classique. Et c'est par là même que le concept de l'histoire ne garde pas du tout le canon du récit traditionnel, et c'est pour ça que donc, bon. Vous l'avez tous deviné, en fait, il s'agit d'une rencontre. C'est-à-dire, ça pourrait être de l'amour, mais... Vous voyez, c'est peut-être de l'amour, mais en tout cas, pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite. Parce qu'après, la situation évolue drôlement. La situation, elle évolue vraiment de façon... La situation, au départ, on se dit, donc, ce n'est pas de l'amour. En fait, la situation va complètement évoluer, hein, parce que l'évolution va évoluer tout au long, vraiment évolue, non partiellement, délibérément et de façon objective, l'évolution évolue... Vers pourquoi ?
Cinérama sur Divergence FM.
Voilà, c'est pourquoi qui est au centre de l'angoisse de tous les personnages, voilà.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.